Miguel Bonnefoy, entre Caracas, Paname et Santiago du Chili.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
La vaisselle attendra sont les premiers mots échangés au téléphone avec Miguel Bonnefoy, dont les mains se font plutôt trempettes habituellement dans l'imaginaire et l'écriture. Finaliste du prix Goncourt du premier roman 2015 pour Le Voyage d'Octavio, vous l'avez peut-être déjà repéré dans un rayon de bibliothèque du Monde, puisque le jeune homme prolixe et habité est traduit dans plusieurs langues. Alors sa maison à lui, c'est une sorte de volière pleine de mots oiseaux, bien perchés et toujours prêts à s'envoler vers l'ailleurs. En témoigne son nouveau roman Héritage aux éditions Rivage, où la plume de l'auteur taquine ses origines familiales, fasciné par la beauté chamanique d'un Santiago du Chili et remué de patriotisme bleu-blanc-rouge pour une France lointaine aussi irréelle qu'une petite sirène. Bienvenue en sol majeur, Miguel Bonnefoy.
Merci beaucoup.
La vaisselle attendra, ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne réplique pour un début de conversation. Est-ce que ça veut dire, très sérieusement, que le réel, le plus prosaïque qui soit, fait partie de votre vie d'auteur ?
Ah, bravo. Eh bien, absolument. Je pense que tous les écrivains, d'une certaine manière ou d'une autre, ils sont en train de sculpter dans l'argile de la réalité. C'est la matière première. Mais ceci est un grand classique, ouais, d'être en train de parler de ça. Je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire que si on puise réellement dans le réel, on peut en effet mieux travailler la fiction et peut-être paradoxalement donner à la fiction une épaisseur, un relief qui rend nos fables plus vraisemblables que la réalité. Au point qu'en écrivant le livre, je me souviens qu'il y avait des gens de ma famille qui lisaient quelques scènes et disaient « Ah oui, je me souviens parfaitement de cette scène, j'y étais !» Et non, mon ami, vous n'y étiez pas parce qu'elle a été toute inventée. Et pourtant...
Le climat change avec les années, le berger change son troupeau, et ainsi, comme tout change, il n'est pas étrange que je change aussi. Pourquoi vous avez voulu cette chanson de Violeta Parra qui va être interprétée dans une seconde par Mercedes Sosa? C'est une chanson qui date des années 50-60 et vous êtes encore tout jeune.
Eh bien, écoutez Violeta Parra ou écoutez Mercedes Sosa et fait partie d'une sorte de tradition de l'imaginaire collectif chilien. Sont les voix qui ont bercé bien sûr l'enfance de mon père et fatalement la mienne aussi. Et je voulais que ce soit une voix de femme et pas toujours des voix d'hommes comme celle de Victor Jara ou celle de peut-être Quilapayún ou celle de Inti Illimani, où on pense toujours d'abord aux voix d'hommes, comme ça aux voix poilues. Au contraire, donner une voix féminine qui montre qu'en effet tout change, mais ce qui ne change pas, c'est la douleur et la contemplation du monde qu'on a devant soi.
Hashtag on vous aime déjà.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.
Le fauve change de pelage, le vieux monsieur change de cheveux. Et ainsi, comme tout change, il n'est pas étrange que je change aussi, mais mon amour ne change pas. Voilà des mots d'éternelle jeunesse, hein, on va dire. Merci Mercedes Sosa pour En sol majeur. Miguel Bonfa, si vous êtes sur Terre, je crois pouvoir dire que c'est grâce à une rencontre. Et cette rencontre entre père et mère, vous m'avez confié qu'elle avait été filmée. Alors on a presque le film, on va l'imaginer avec vous. Il n'y a pas le son, mais il y a votre voix. Premier exercice de compteur pour en sol majeur.
I
I comme il était une fois.
Nous sommes en été 1984 et mon père participe à des tournois de foot au bois de Vincennes entre réfugiés politiques des différentes dictatures d'Amérique latine.
En France ?
En France. Donc des torturés de la dictature de Pinochet, des torturés de la dictature de Videla, il y a des Argentins aussi, il y a des Uruguayens, il y a des Brésiliens, et tous font partie de ce flux de latino-américains qui sont arrivés dans les années 70 en France. Et donc pour passer le temps, comme ça les dimanches, ils font quelques matchs de foot, sortent de petites coupes du monde. Et ma mère à ce moment-là était déjà diplomate, elle est vénézuélienne de Maracaibo. Donc elle est dans les gradins, mon père est sur la pelouse, et toute ma vie, moi j'ai entendu l'histoire, en effet, de ce match de foot dans lequel elle, au début, en le regardant, elle ne lui voyait absolument aucun intérêt, mais à l'instant où le match s'est fini, il a mis un peu d'eau dans ses cheveux, avec ses yeux verts comme un félin et la moustache pleine d'une politique d'hier, s'est tourné vers elle et lui a dit bonjour, et bien aussitôt il y a eu là une sorte de conjonction astrale, hein, quelque chose comme ça de galactique qui s'est passé entre eux et qui a donné ensuite une histoire d'amour et tout ce qu'on sait. Et j'ai été surpris, il y a à peu près 4 ans, de recevoir un mail d'une femme qui s'appelle Agnès Peña, qui était la femme de Paco Peña, qui était tout simplement le gardien de but de l'équipe du Chili,
ouais.
Qui elle est une documentaliste, qui ce jour-là avait acheté une caméra, qui était en train de filmer ce match de foot de son copain, en fait, tout simplement pour voir un petit peu comment fonctionnait la caméra.
Un paparazzi avant l'heure.
Bravo, un paparazzi avant l'heure. Et aussitôt, en filmant alors les gradins, en filmant les joueurs, elle m'envoie la photo en me disant j'ai cru voir ta mère toute jeune, et je crois qu'il y a ton père aussi au loin, on le voit comme ça gambader comme une panthère, donc peut-être que cette vidéo peut t'intéresser. Et bien écoute, même en parlant aujourd'hui, Yasmine, comme ça j'en ai la chair de poule, car vous pouvez imaginer, j'ai le film de la rencontre de mes parents.
Et on se croirait presque dans le début de votre nouveau roman dont on va parler, mais puisque vous avez vous-même, Miguel Bonfoy, des airs un peu comme ça d'archéologue, j'imagine que vous savez presque dans le détail le trajet de votre arbre, de votre double arbre généalogique, qui est fait apparemment d'exil, de patriotisme, à distance souvent, et aussi de cœur révolutionnaire.
Absolument. Alors il y a bien sûr deux arbres, non, comme pour tout le monde. Du côté chilien, donc du côté français, il semblerait que les Bonnefoy viennent d'un petit village qui s'appelle Boissia, dans le Bas-Jura, près de Clairvaux-les-Lacs.
Et que des noms romanesques.
Que des noms romanesques, on est d'accord. Et en effet, pour la petite anecdote, on est remonté, mon cousin Roman Bonnefoy, qui est généalogiste, a remonté le plus loin possible jusqu'à Claude-Georges Bonnefoy. Et la seule chose qu'on savait de lui, c'est qu'il était tavernier. Et juste à côté de tavernier, il y a entre parenthèses le mot honnête dans l'archive municipale.
Un bonne foi ne peut pas être de mauvaise foi.
Oui, quelque part, ça semble une sorte d'ironie de l'histoire, non ? Et c'est fou de se dire que, voilà, dans un premier héritage ou la première pierre posée dans la lignée familiale, il y avait cet adjectif honnête, comme ça, qui peut-être s'est suivi d'une manière inconsciente de génération en génération.
Donc ça, c'est la première branche ?
Première branche, en effet. Et puis après, ils arrivent au Chili, et donc vous connaissez sans doute l'histoire. Et donc la branche...
Je vous ai lu.
Voilà. Et la branche vénézuélienne, ça vient du côté de la mer. Mon grand-père s'appelait Antonio Borja Romero et au troisième jour de sa vie, il a été déposé sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Totalement orphelin, il est élevé par une muette qui s'appelait la Muda Teresa et il va devenir cardiologue, va devenir député, va devenir sénateur et va devenir le recteur de la première université de Maracaibo.
C'est dangereux de vous demander votre livret de famille.
Oui,
Miguel Bonnefoy, on est déjà dans une épopée, un péplum presque. Une naissance pour vous à Paris en 86 avec dans votre valise sonore un souvenir, enfin vous en avez plein, mais vous m'avez cité celui-là, un souvenir de vagues se brisant sur la plage de Cata au Venezuela. C'est-à-dire que vous êtes né à Paris, mais vous vous êtes promené sur la terre.
Absolument. Né à Paris, fils de diplomate, donc comme tous les fils de diplomate, j'ai énormément bougé. Et je me souviens qu'on est parti vivre au Venezuela, à la chancellerie, puisque ma mère, quand elle est diplomate à l'étranger, bien sûr, elle a le poste de diplomate, mais quand elle est dans son pays d'origine, elle est tout simplement fonctionnaire de la chancellerie. Et donc je suis arrivé vers 5-6 ans au Venezuela et peut-être les premiers souvenirs, enfin je m'en souviens très clairement, c'est dans cette plage à Cata et voilà, le sentiment du sel, du sable et de la lumière au milieu des Caraïbes.
L'écriture qui s'invite à la table des rêves pour vous apparemment très tôt. Elle s'invite sérieusement et peut-être professionnellement, comment ?
Eh bien, peut-être d'abord par mimétisme, puisque mon père écrit, c'est-à-dire en sortant de la dictature, il a écrit un récit de témoignage, s'appelle Relato nel Frente Chileno, sous le pseudonyme de Hilario Da, et donc que je reprendrai plus tard.
C'est un personnage de votre roman.
Exactement, et donc peut-être on en parlera plus tard. Et puis, moi j'ai vu toute ma vie mon père écrire des livres, il en a écrit 11. Son dernier livre est magnifique, qui s'appelle Punto e non Retorno. Et donc lui, il a suivi ma mère dans les différents déplacements. C'est quand moi j'avais 14 ans et qu'on habitait à Lisbonne, au Portugal, à Lisboa, où j'ai commencé à écrire les premières pièces de théâtre et à écrire énormément de réécritures de mythes. Tout à fait fasciné par la mythologie, peut-être parce que je n'avais pas vécu suffisamment de choses, eh bien j'ai décidé d'aller puiser dans un imaginaire collectif qui existait déjà, qui n'est le privilège de personne, qui est la source de tout le monde.
Alors l'écriture, elle a ça de magique qu'elle peut, en quelques phrases évidemment bien choisies, dire le cheminement des êtres, des destins et d'une lignée juste à travers un patronyme. Votre roman Héritage, Miguel Bonnefoy, s'ouvre sur un personnage nommé, on vient de le dire, Lazare Lonsonnier. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça ?
Il s'appelle Lonsonnier car c'est un malentendu de douane. Il y a cette belle anecdote qu'on retrouve dans les premières pages de 4-3-2-1 de Paul Auster, mais qu'on retrouve aussi dans un très beau témoignage et un très beau livre sur Ellis Island de Georges Perec, avec cette blague juive que beaucoup de gens connaissent, où ce juif qui ne parle que yiddish est dans la queue à Ellis Island en attendant le service d'immigration, et lorsqu'il est dans la queue, le type qui est devant lui lui dit « Toi, comment tu t'appelles ?» On lui dit « Moi, je m'appelle Rosenzweig ». Il dit « Ouh, mon ami, avec un nom comme ça, ça va être compliqué ici. Dis plutôt que tu t'appelles Rockefeller et tu vas voir comment, en t'appelant Rockefeller dans ce pays, tu vas être un roi. » Le type se souvient Rockefeller. Et lorsqu'il arrive au service d'immigration, le type lui dit « Non ». Et là, il a oublié. Et dit donc en yiddish « Ishabad Ferguson ». J'ai oublié. Et donc, le type marque « Ishabad Ferguson ».
C'est ce qui arrive à Lonsonnier.
Exactement. Et c'est exactement ce qui arrive à Lonsonnier. Donc, moi, cette histoire m'a fasciné. À côté de ça, il y a l'histoire de Corleone. Et il y a plein d'histoires dans l'imaginaire des migrants et des déracinés sur ce changement de nom, ce changement d'orthographe dans les services d'immigration. Moi, tout simplement, je me suis permis de m'épauler sur ces histoires pour pouvoir raconter l'histoire de cet homme qui vient de Lons-le-Saunier. Et à l'instant où il arrive dans le service d'immigration de Valparaíso, le monsieur lui demande « Quel est votre nom ?» Lui est convaincu qu'il vient de lui demander « D'où venez-vous » Il répond « Je viens de Lons-le-Saunier ». Et donc il marque « Lonsonnière ».
Des coteaux du Jura français au 19e siècle jusqu'à la dictature chilienne du 20e, on va suivre sur combien de générations ? 3 Trois générations de Lonsonnier, d'abord à Valparaiso, où Lazare intègre, alors Lazare le personnage, l'ancêtre on va dire, le patriarche, intègre le cercle des expatriés et des chilianisés, comme vous dites. Et puis on suit l'évolution de ses enfants, qu'il a avec une bordelaise marchande de parapluies. Et des enfants dont on dit qu'ils sont plus français que les Français. Est-ce que ça, c'est un fantasme d'auteur ou pas ?
Eh bien, j'ai observé dans les différents livres, dans les différents archives, dans les registres, dans le travail hagiographique qu'ont fait quelques chercheurs pour pouvoir comprendre cette communauté de Français à l'étranger, qu'il y avait vraiment une sorte de francomanie qui s'était créée au Chili dans ces années. Fin 19e, énormément de vignerons, des œnologues, des maîtres de chais arrivent sur les coteaux de la cordillère pour pouvoir replanter la vigne, et aussitôt ils vont vraiment se marier entre Français, vont constituer des écoles françaises, vont faire des casas françaises avec des épiceries françaises, ne mangent pratiquement que du français, parlent français à table, font des pique-niques et se tiennent au courant de tout ce qui se passe en France, si bien qu'ils finissent par vivre davantage en France qu'au Chili. Et on faisait la blague en disant que s'ils lisaient qu'il pleuvait à Paris, ils allaient sortir avec un parapluie le jour même alors qu'il faisait plein soleil peut-être à Santiago. Oui. Et donc ce jeu un petit peu de vivre dans un tel exil que tu peux continuer réellement à te projeter sans cesse à 12 000 km de distance sans réellement comprendre où tu es, m'a semblé quelque chose de tout à fait fascinant.
Alors, mais ce caractère français, vous le décrivez très très bien, hein, Miguel Bonnefoy. Il se retrouve notamment dans les expériences culinaires. J'adorerais goûter votre empanadas farcie de boudin. Ça se retrouve aussi dans l'hygiène domestique à la française, avec un objet quand même incroyable qui s'appelle une baignoire.
Absolument. Absolument. Eh bien, il y a la présence de la baignoire qui, comme la présence de la volière, peut-être on en parlera plus tard, font partie des éléments qui suivent la famille sur les quatre générations et sur le siècle, et qui deviennent comme des piliers pour donner une couleur, pour donner un parfum, pour donner ce je ne sais quoi qui donne au livre des effets de réel, comme disait Barthes. Et la baignoire sera l'endroit où, bien sûr, il y aura aussi des couples qui vont se former, il y aura des enfants qui vont naître.
Et c'est dans son bain que votre Lazare va apprendre le meurtre de Jean Jaurès et l'annonce de la Première Guerre mondiale.
Exactement, exactement. Le livre ouvre avec cette image de Lazare Lonsonnier lisé dans son bain quand la nouvelle de la Première Guerre mondiale est arrivée au Chili. Et je pense aussi que c'était un clin d'œil à cette belle phrase de Kafka. Le jour de la nouvelle de la Première Guerre mondiale, Kafka écrit dans son journal « Après-midi piscine ». Et je me suis toujours dit que c'était assez beau, non, de pouvoir commencer en effet un livre avec un type qui apprend en effet qu'une des plus grandes catastrophes du siècle vient de survenir, mais lui, il est surtout intéressé des écorces de citron qui sont en train de flotter dans l'eau de son bain.
Mais votre Lazare à vous, Miguel, va vivre une sorte de dilemme patriotique, puisqu'il va s'embarquer au front, hein, il est plus français que les Français, on l'a dit. Il va se retrouver au front nez à nez avec un certain Helmut Drichmann, c'est un jeune voisin de la rue Santo Domingo, qui lui a aussi été rattrapé par le désir de défendre le pays de ses ancêtres. On ne va pas raconter le dilemme, hein, il faut vous lire, mais en fait... C'est pour dire que dans votre roman, on sent battre à la fois un cœur français, mais dans une nature extrêmement andine. C'est un double rapport au monde, en fait, que vous racontez, un double rapport au monde qui laisse intranquille.
Absolument. Longtemps dans mon enfance, on m'a demandé quel continent tu préfères, l'Amérique latine ou l'Europe. En ayant grandi en Amérique latine, mais t'en es en France. En ayant fait des études de lycée français à l'étranger, mais en faisant régulièrement l'aller-retour, pendant des années, j'ai cru que s'il y avait 8000 km d'eau salée entre les deux continents, eh bien, il fallait fatalement qu'il y ait aussi 8000 km d'eau salée dans mon cœur, et qu'il fallait vraiment choisir et qu'il fallait les diviser. Et au contraire, moi, c'est aujourd'hui avec beaucoup de fierté et beaucoup d'orgueil que je me sens un croisement, je me sens un métis, et je veux croire qu'il n'y a absolument pas de déséquilibre entre les deux continents, entre les deux pays, entre les deux cultures. C'est peut-être un livre qui essaie justement de dresser un pont entre deux peuples. Donc, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a dans Héritage une ode à la France, à cette France imaginée, à cette France rêvée, comme vous
une
disiez
sirène,
si bien.
Hein.
Voilà, habillée comme une sirène ou comme une duchesse viennoise, parce que c'est vrai que c'est pas la France réelle. Les Chiliens imaginent une France du contrat social de Rousseau ou du positivisme de Comte, mais c'est une France qui n'est pas du tout comme ça dans la réalité à leur époque.
Mais c'est ça aussi qui donne envie de la défendre.
Exactement, bravo, c'est exactement ça. Et parallèlement aussi, du côté français, on imagine un Chili éloigné, avec des camaïeux étranges, avec une chaîne de montagnes démesurée, et ce Pacifique que personne ne connaît. Et finalement, lorsqu'ils sont, ils se rendent compte qu'ils finissent par projeter plus ou moins les mêmes choses qu'ils faisaient là-bas, et qu'ils finissent par reproduire exactement les mêmes systèmes et les mêmes structures qu'ils étaient presque en train de combattre chez eux. Donc c'était beau juste de créer des passerelles, des traboules, mais toujours ce jeu de dualité et ne pas avoir à choisir.
Mille et un personnages, en tout cas, dans cet héritage. Lazare épouse une certaine Thérèse qui a une passion pour les oiseaux. Et puis ensemble, ils ont une petite Margot, née devant la volière de sa mère. C'est un moment poétique magnifique. Une petite Margot qui semble au début de sa vie totalement fermée au monde, jusqu'au jour où un certain Okan, qui est un guérisseur mapuche, lui dit une phrase qui va devenir une vérité pour Margot. Et cette phrase, c'est « La lévitation, c'est le futur ».
À 17 ans, elle ignorait fièrement Verlaine et Rimbaud, leur préférant l'étude des fibres synthétiques qui enveloppent les montgolfières. Elle ne lisait ni Gérard de Nerval, ni Aloysius Bertrand, mais apprenait sans fatigue, avec une curiosité inlassable, les calendriers des pluies, alors que la météorologie n'en était encore qu'à ses débuts. Elle ne connaissait d'Icare que son ascension, car elle fermait toujours le livre avant sa chute. En la voyant, on devinait déjà les tentes au bord des pistes, les masques à oxygène, les puissantes turbulences. Elle ne s'était pas laissée tenter comme d'autres par l'envoûtement de l'uniforme, le charme du cuir, le prestige et les galons ailés. Margot Lonsonnier entrait dans l'aviation comme autrefois on entrait dans les ordres pour y embrasser une vocation et y mourir.
Extrait en sol majeur de votre roman « Héritage » Miguel Bonnefoy. Alors c'est drôle parce que dans ce roman, les hommes sont plutôt ancrés dans la terre. C'est un peu une généralité, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même une tendance. Cependant que les femmes sont plus harponnées par le ciel.
Ah, bravo. Ah, joli.
J'aime bien que vous me disiez bravo.
je l'avais pas vu. Comme ça, je trouve fascinant la multiplicité des lectures et c'est merveilleux de se rendre compte à quel point finalement les lecteurs ou les excellents lecteurs comme vous finissent par connaître le livre beaucoup mieux que l'auteur lui-même.
Les lecteurs écrivent à leur tour.
Ah oui, c'est ça, bravo. C'est ça. Ouais, les lecteurs écrivent à leur tour le livre. C'est tout à fait ça. Oui.
Je vais ouvrir un autre tiroir, alors peut-être plus simple pour la réponse. Pourquoi chez vous cette envie de femme aviatrice?
Oui, eh bien, pour être tout à fait honnête, j'avais en effet dans les différentes générations et par rapport au siècle, le premier Lonsonnier qui arrivait était avec l'histoire du service d'immigration, Lazare Lonsonnier qui allait être dans la Première Guerre mondiale, et ensuite je voulais bien sûr finir avec la dictature, avec Pinochet, avec Hilariola et ce témoignage très fort pour pouvoir ensuite fermer la boucle avec un retour final. Quoi qu'il en soit, au milieu, j'avais un trou générationnel qui était le trou de la Deuxième Guerre mondiale. Ma famille n'y a pas participé, elle était restée à Santiago. Face à ce trou, il fallait que je trouve un bon personnage et j'étais dans un métro pour aller chez ma sœur. Quelqu'un avait laissé un journal juste à côté. En ouvrant le journal, je regarde les dépêches et je vois que c'est la mort de Margot Duhalde, aviatrice franco-chilienne qui avait participé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était venue directement de Santiago à l'appel de Gaulle et qui en effet avait combattu contre les Allemands comme ça héroïquement. Ensuite, elle avait eu la Légion d'honneur, était rentrée au Chili comme une sorte de sainte et on lui avait donné donc le nom du musée de Los Cerrillos qui aujourd'hui existe. Et donc j'ai fait énormément de recherches sur Margot Duhalde, j'ai lu sa biographie, je suis allé au musée de Los Cerrillos quand j'étais à Santiago, etc. Et finalement, c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Margot Lonsonnier. C'est tout simplement un clin d'œil à Margot Duhalde.
Comme quoi, prendre le métro, lire le journal ou faire la vaisselle.
Imaginez-vous si j'avais pris un Uber, peut-être qu'on aurait un autre roman.
Absolument. Héritage, donc, ou comment Hilario Da, c'est la troisième fois au moins que vous prononcez ce nom, se retrouve donc dans l'arrière-cour d'un certain Salvador Allende. Allende et son dernier message.
La
le Chili devint un pays d'arrestation, d'exécution sommaire, de procès truqués. La Lina fouilla les universités, les bibliothèques, les laboratoires de recherche, déportant les esprits les plus éclairés de son siècle. 3000 personnes assassinées, 30 000 prisonniers politiques, 25 000 étudiants expulsés, 200 000 ouvriers renvoyés. Les prisons se remplirent de professeurs émérites, d'intellectuels, de musiciens, d'artistes. Les domaines viticoles se transformèrent en centres d'interrogatoire où on torturait des poètes, des boulangers, des luthiers, des marionnettistes. Marcher dans la rue le soir était interdit, avoir des cheveux longs était un délit, lire de la poésie était suspect. Ils voulaient construire un moulin alors qu'ils interdisaient le vent.
Miguel Bonnefoy, votre plume d'auteur a rattrapé l'histoire, à moins que ce ne soit l'histoire qui soit rentrée dans la maison familiale, mais vous nous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure. Dites-nous tout sur cette Hilarioda.
Oui, eh bien oui, vous avez tout à fait raison. En effet, l'histoire façonne les hommes comme les hommes façonnent l'histoire à son tour. Et Hilarioda est le pseudonyme qu'a pris mon père le jour où il a décidé d'écrire Relato nel Frente Chileno, qui est le témoignage de ces 3 semaines dans un centre de torture à Villa Grimaldi, près de Nuño à Santiago. Il avait 17 ans, il faisait partie du MIR, qui est le Movimiento de Izquierda Revolucionario, le mouvement d'extrême gauche révolutionnaire. Donc ce sont des mouvements armés contre la dictature de Pinochet. Il a donc été arrêté dans la scène d'arrestation, d'ailleurs, que je raconte, tout est vrai. Et il arrive donc dans ce centre de torture à Villa Grimaldi, où il va y passer 3 semaines. En sortant de là, il est envoyé dans une prison commune et ensuite il est exilé en France. Il se met à écrire tout le récit de cette torture, sans doute pour un travail cathartique, bien entendu, pour pouvoir passer sa noirceur dans la noirceur des personnages, mais également pour donner un document qui soit un document témoignage et qui servira d'ailleurs 30 ans plus tard, pendant les procès qu'on va faire à Pinochet. Ah oui. C'est un des livres qui servira pour pouvoir justement nommer quelques tortionnaires et avoir un document en plus dans la grande colonne et la grande tour de tous les documents contre la dictature.
Ce livre est un hommage donc à ce cœur révolutionnaire.
Exactement. J'ai emprunté à la réalité, j'ai emprunté à son histoire une parcelle. Si je l'avais appelé comme mon père, qui s'appelle Michel Bonnefoy, eh bien tout à coup j'aurais trahi l'homme puisque je lui aurais donné son véritable nom. Mais en donnant le véritable nom au personnage qui était en fait le pseudonyme de mon père, je fais tout simplement une inversion des rôles et je crée alors Hilarioda, qui n'a existé que pendant un ou deux livres, puisqu'il n'a publié que pendant un ou deux livres, je lui donne une existence.
C'est un hommage aussi au pouvoir de la fiction, finalement. Hein. Et à celui donc qui ne s'est agenouillé devant personne. C'est une phrase qui court dans ce roman où vous décrivez tragiquement l'histoire de la dictature avec ses absurdités. Il y a de mémoire comme ça cette image d'autorité policière qui, à un moment donné, rend visite à la volière de Thérèse et qui a cette phrase: est-ce que vos oiseaux sont communistes? J'adore cette réplique. Quel est l'héritage de cette famille, finalement, Miguel Bonnefoy, qui aura donc vécu entre exil, lévitation et fragmentation?
Oui, un héritage compliqué, bien sûr. D'une part, un premier héritage qui est celui de montrer qu'en effet, les migrants n'ont pas toujours été en un seul sens. C'est-à-dire que j'ai voulu inverser les rôles aussi. J'ai voulu montrer que les Français avaient été des migrants, eux aussi, à certains moments, et qu'ils étaient à la place de ceux qui, aujourd'hui, sont dans des caravanes dangereuses, dans l'espoir d'une vie meilleure, en traversant des mers dans des bateaux de fortune. Donc il y avait peut-être déjà cet héritage de montrer que s'ils venaient d'une lignée de déracinés, ils allaient eux aussi garder cette espèce de racine à l'intérieur du cœur et seraient déracinés à leur tour, tôt ou tard. Chaque génération, en plus dans le livre, a un dilemme. Lorsqu'on choisit, lorsqu'on bifurque, lorsqu'on décide d'aller à droite ou à gauche, finalement, ce n'est ni juste ni injuste, ce sont juste des choix que font les hommes mêlés aux grandeurs et aux bassesses de l'histoire, et ceci selon le contexte historique de la Première Guerre mondiale, selon les codes de la Deuxième Guerre mondiale, selon les horreurs et les exactions de la dictature, mais à chaque fois, c'est finalement le même dilemme qui est celui de dire quel homme ou quelle femme veut-on être dans l'histoire. C'est cet héritage-là.
Ceux qui ne peuvent se rappeler leur passé sont condamnés à le répéter. Ça, c'est la citation de Georges Satayana que vous mettez en exergue, sur laquelle il va falloir méditer.
sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido.
Vous m'épatez, Miguel Bonnefoy. 34 ans, hein, c'est ça?
Oui.
Et pas rasé. Et vous êtes toujours dans le Valparaiso des années 70 avec cette chanson de Gitano Rodriguez. Pourquoi ?
Eh bien, je trouve en effet que ça fait partie des artistes qui peuvent parfois donner, dans des instants de comète, des instants de fulgurance, comme ça, des instants de sommet, de paroxysme, un chef-d'œuvre, et puis ensuite s'éteindre.
Vous savez qu'on adore votre petit accent. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour un sol majeur à renouer quelques minutes, quelques secondes même, avec votre langue maternelle ?
Bien sûr.
En sol majeur, en version originale, non sous-titrée.
Miguel Bonnefoy, est-ce que Caracas au Venezuela a la même place que Santiago du Chili dans votre cœur ?
Non, confieso que Caracas es más importante en mi corazón que Santiago, porque viví durante 14 años en Caracas, en Venezuela, y en verdad viví muy poco tiempo en Santiago. Así que Venezuela en mi corazón, Santiago también, pero Caracas es otra cosa.
Magnifique, j'ai l'impression de parler espagnol moi-même. Quelle est votre expression préférée en espagnol?
Ya le voy a decir inmediatamente, yo diría que es... Donde hay ángeles nuevos, los antiguos no hacen milagros. Là où il y a des anges nouveaux, les anciens ne font plus de miracles.
Magnifique, avec le doigt levé. Du coup, je crois que je n'ai même pas posé la question suivante. Quel est le premier poème qui vous vient à l'esprit, quelle que soit la langue ?
Tengo que confesar que es claramente en francés. Admito que es en francés y es un poema de Les Jeans, de Victor Hugo.
Qui commence comment ?
Les murs, villes et ports, asile de mort, mer grise où brise la bise, tout dort.
C'est dans du slam, hein ?
Oui, n'est-ce pas, on dirait.
En tout cas, dans votre bouche à vous. Merci Miguel d'être retourné juste quelques secondes dans votre première langue, l'espagnol. Et évidemment, à ce moment-là, pensent les auditeurs avec moi, pourquoi écrire en Molière ?
Oui, eh bien, j'ai été éduqué dans les lycées français à l'étranger. Donc, naturellement, on m'a appris les ruses et les astuces du français. Mais il y a aussi une raison politique. Le fait d'avoir écrit en français me permet aujourd'hui d'être en France et d'écrire des livres qui sont considérés comme de la littérature française et non pas de la littérature étrangère écrite en espagnol. Si je l'avais écrit en espagnol, ce serait avec d'autres codes, ce serait avec un autre mouvement, avec un autre glissement, avec un autre aloi. Comme dit Pierre Michon, et donc ce sentiment de la langue serait bien sûr différent. Au moment de la traduction, on perdrait sans doute une force et une couleur. Peut-être que ce serait davantage tropical en espagnol, mais on la perdrait bien sûr en français. Et donc, dans la cuve de la langue française, je n'arriverais pas peut-être à retrouver justement cette épaisseur, cette couleur et ce parfum.
Donc c'est bien un choix politique hein, que d'écrire en français. Est-ce que ça veut dire, moi, en même temps je mets ça entre guillemets, que vous avez choisi le camp des dominants?
Oui, quelque part, en effet. Alors c'est un cheval de Troie. Et parce que je ne choisis pas le camp des dominants pour pouvoir ensuite vilipender ceux qui subissent le monde. Au contraire, peut-être il y a le camp des dominants par rapport à la langue, ce territoire de la langue, mon pays et la langue. Mais pour pouvoir parler, en effet, tantôt du Venezuela, tantôt du Chili, et essayer de rendre hommage à d'autres cultures, d'autres traditions qui me sont chères, en tournant le regard des Français vers cet autre continent.
Ouais. Écrire, c'est rusé. Hein. En tout cas, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit quelque chose comme ça tout à l'heure. Double imaginaire pour vous, Miguel, et dans votre imaginaire sonore... On trouve le monde, on trouve le chant des cigales, bon ça c'est un peu classique, mais on trouve aussi les sons de l'univers enregistrés par la NASA. Ah oui ?
Qui sont horribles.
Ah oui,
oui, vraiment horribles, c'est encore pire que le cri du condor.
dont on n'a pas parlé, mais hommage.
Voilà, hommage en effet. Ouais. Et absolument, vous pouvez le trouver sur internet, c'est effrayant, absolument terrorisant. J'ai trouvé que c'était absolument magnifique de se rendre compte que lorsqu'on imagine l'univers et lorsqu'on regarde les étoiles, eh bien on se dit que tout de suite c'est probablement comme ça un violon de Paganini qui doit être là quelque part. Eh bien au contraire, lorsqu'ils sont parvenus réellement à l'écouter, on a l'impression du ventre d'un animal comme ça ou d'une créature mythologique qui est en train de grouiller comme ça dans une caverne affreuse.
On trouve aussi une femme qui plonge dans une piscine. Je suis pas sûr de l'aspect sonore là. Le battement de cœur d'un poisson lune.
Oui, il semblerait...
Ça pèse une tonne. Hein,
voilà, exactement. Magnifique, imaginez-vous. C'est un cœur aussi gros. Et il semblerait que le poisson lune continue de croître toute sa vie. Et lorsque le poisson lune meurt, c'est tout simplement parce qu'en fait, le cœur est si grand
étouffé
qu'il crée
par
une
son
hémorragie.
Cœur.
Il est étouffé par son propre cœur.
À vos plumes. Hein.
Mais absolument. Mais s'il fallait que je me réincarne, ce serait sans doute entre un homard, une éponge de mer ou un poisson lune.
Et nous voilà dans la cuisine à faire la vaisselle. Et puis dans cet imaginaire, il y a donc la voix de l'Argentin Julio Cortázar, 1914-1984. On va l'écouter, vous nous traduisez live ?
Bien sûr.
On y va.
Para mi gran sorpresa y mi gran maravilla.
Je pensais quand j'ai fini Rayuela que c'était pour des lecteurs de mon âge. Mais quand il était publié en Argentine et quand il était connu en Amérique latine, ce sont les jeunes en effet qui l'ont lu. Jamais je n'aurais pensé à eux en écrivant ce livre. Et c'est les lecteurs de Rayuela sont les jeunes.
O cartas de adhesión o cartas de insultos.
Oui, les lettres d'insultes, les lettres d'adhésion.
Dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes.
Ont été celles des jeunes.
Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años.
Ce phénomène a continué au long de ma carrière.
Un libro pensando que hacía una cosa que correspondía à son edad, à son tiempo.
C'est assez beau de se rendre compte que lorsque tu écris quelque chose qui semble correspondre à ton âge ou à ton temps, ce sont finalement en effet les mêmes bases et les mêmes problèmes que tu poses qui sont celles de la génération qui vient. Et sans doute alors c'est une des justifications du livre, c'est celle d'écrire pour ceux qui sont nés hier.
Julio Cortázar, donc traduit par Miguel Bonnefoy, bravo.
Merci.
C'est à moi de vous dire bravo pour la première fois dans l'émission. Auteur surréaliste, s'il en est.
Bien sûr,
ludique,
bien sûr.
Hein, aussi.
Tout à fait ludique, et puis c'est quelqu'un qui a sans cesse joué, non seulement avec les mots, mais joué avec les codes, joué avec le genre. Rayuela, donc qui veut dire Marelle, est aussi un livre en fait qui se lit deux fois. Non, donc soit
on peut lire les chapitres dans un désordre.
Voilà, lui il donne un ordre spécifique dans la préface. Il dit vous pouvez lire en commençant par le chapitre 14, puis ensuite le 37, puis vous passez au 2, puis, hein, et il y a un livre. Ou sinon vous le lisez depuis le premier chapitre au dernier, vous avez un autre livre. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'à l'intérieur d'un livre il y a deux livres. C'est pour ça que lorsque les gens disent j'ai lu Rayuela, lequel des deux? Donc il y a sans cesse comme ça un jeu de miroir dans l'œuvre de Cortázar.
On vous imagine Miguel Bonnefoy comme ça dans une montgolfière, vivant au-dessus de ce continent latino-américain. Pourquoi tout en vivant en France, enfin je crois, et en vivant sans doute à la française, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire d'ailleurs. Pourquoi cette fidélité aux auteurs latino-américains et de cette génération du XXe siècle?
Alors bien sûr qu'il y a cette génération, comme vous dites, qui est la génération de ce qu'on a appelé le boom latino-américain, et que ce soit Julio Cortázar, que ce soit Borges, que ce soit Neruda, García Márquez, Vargas Llosa, Alejo Carpentier, non, Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, non, qui sont tous les... Et c'est plus ou moins une même époque comme ça, donc dans les années 60, les années 70, qui se sont retrouvés en Europe pour des raisons politiques, en fuyant chacun des dictatures ou des tyrannies. Et c'est fou de se rendre compte comment finalement c'est l'Europe qui a quelque part créé cette espèce de mouvement du boom latino-américain, puisque l'Europe a souvent voulu donner dans différents siècles des mouvements d'écriture, non, en créant des cases, des étiquettes.
L'arroseur arrosé.
Ouais, c'est l'arroseur arrosé. Et finalement, ils ont donc donné alors au nom de ce groupe, de cette constellation d'écrivains, l'idée du boom latino-américain. Ce qui s'est passé après le boom latino-américain, c'est que les écrivains qui ont commencé à écrire dans les années 2000 ont créer un autre mouvement qui était un mouvement iconoclaste. C'est-à-dire qu'il voulait rompre avec ce espèce de romantisme comme ça, ce côté gaucho, ce côté chevaleresque, avec des phrases bien tournées et avec des thèmes qui étaient nobles et bibliques. Et au contraire, ils se sont mis à faire une littérature qui était beaucoup plus sèche, beaucoup plus aride, en parlant justement de la drogue, en parlant du sexe, en parlant de la nuit.
Vous me parlez beaucoup d'eux, mais vous ne parlez pas de vous. Pourquoi ouais, cet attachement?
Désolé, je me suis lancé. Peut-être cet attachement, c'est que je ne me reconnais pas tellement dans cette littérature iconoclaste, justement, des années 2000, qui essaye de rompre avec les pères d'hier du boom latino-américain, mais au contraire, peut-être parce qu'il y a 40 ans, ou presque un demi-siècle, qui me sépare de Rayuela ou de Cien Años de Soledad, j'ai voulu aller vers eux plutôt et voir s'il était possible non seulement de s'imprégner de cet imaginaire, mais également de le traduire en français. Donc c'est-à-dire d'avoir un pied en France, mais tout en gardant cet imaginaire foisonnant, luxuriant et baroque de l'Amérique latine.
Mais c'est peut-être votre cuisine métissée, quoi.
Exactement. C'est une cuisine métissée et, encore une fois, j'essaye comme je peux, tous les jours, livre après livre, de l'améliorer.
Mais vous avez aussi des fidélités françaises, évidemment.
Absolument.
Avec un certain... C'est un exemple, hein, Émile Cioran.
Oui, absolument.
Ce célèbre insomniaque devenu un génial pessimiste du monde.
Ah oui, pour le coup, il est pessimiste, oui.
Ne se suicident que les optimistes qui ne peuvent plus l'être. Les autres, n'ayant aucune raison de vivre, pourquoi en auraient-ils de mourir?
Ouais, magnifique, magnifique.
Est-ce que vous reconnaissez peut-être l'un des syllogismes les plus pessimistes de Cioran? Mais je ne suis pas sûre que ce soit l'amertume que vous ayez en partage.
Non, pas du tout, pas du tout. Peut-être, en effet, je reconnais de l'inconvénient d'être né, et en effet, Cioran apparaît là. Mais non, je ne partage pas du tout avec Cioran ce pessimisme. Je partage avec Cioran la fascination qu'il a pour la langue française et justement ce chemin qu'il a fait de commencer à publier dans sa langue et tout à coup arriver en France comme Ionesco, comme Beckett, comme Nabokov. Je ne suis pas du tout en train de me comparer à eux, attention, hein, je garde tout à fait les proportions et c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça, mais j'aime cette idée de pouvoir s'approprier d'une langue qui n'est pas la tienne à la base et te dire pourquoi ne pas prendre 30, 40, un demi-siècle de vie pour pouvoir essayer d'en fouiller les poils et le ventre. Et ça, en effet, c'est assez beau. Et c'est pour ça, en effet, que je me reconnais dans Cioran, mais aussi dans Gary, par exemple.
Oui, vous avez travaillé même sur lui.
Exact.
Les poils et le ventre, hein, c'est un titre à retenir. Cioran, retrouvons sa voix avec ces fameux airs qui roulent, des airs venus de Roumanie.
Je suis né dans un village, tout à fait dans la Carpac, en montagne, à 12 km de Sibiu Hermannstadt. Et ce village, je l'aimais énormément. Et quand je l'ai quitté, ça a été pour moi, je dois dire, à 10 ans, j'ai quitté ça pour aller au lycée de Sibiu. Je n'oublierai jamais le jour, ou l'heure plutôt, où mon père m'a emmené à Sibiu. On avait loué une voiture à cheval. J'ai pleuré. Je pleurais tout le temps, avec une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Et c'était l'époque idéale. Alors j'aimais beaucoup les paysans, et plus encore que les paysans, vraiment les chobans, c'est des bergers. Vraiment, j'avais une sorte de culte pour eux, et au fond, le seul monde véritable, c'est le monde primitif, où tout est possible et rien n'est actualisé.
C'est la première fois en sol majeur que je vous vois songeur, Miguel Bonnefoy. Est-ce que vous êtes d'accord avec Émile Cioran disant « le seul monde véritable, c'est le monde primitif ».
Non, j'aime beaucoup cette idée, mais il y revient sans cesse à cette idée du monde d'hier, monde primitif, à l'heure ancestrale, comme ça, à la première pierre, au premier mot, au premier pas de l'humanité. C'est ce sentiment étrange de se demander si je suis au début ou à la fin de l'humanité. Est-ce que j'ai en effet 10 000 ans de retard ou d'avance, selon mes contemporains? Et moi, je vous pose la question, même ici aujourd'hui, à vous, ici à RFI, est-ce qu'on est en ce moment dans la fin de notre siècle, ou est-ce qu'on est au contraire juste au tout début de quelque chose d'immense?
Est-ce que vous vous sentez appartenir à cette famille qui incarne le patrimoine français, tout en venant d'ailleurs, on écoutait Cioran à l'instant, qui venait de Roumanie, mais on pourrait parler d'Apollinaire, né sujet polonais, on pourrait parler de Romain Gary, né dans l'Empire russe, de Zola, d'origine italienne,
Chopin,
etc. Est-ce que vous vous sentez appartenir à cette famille?
Oui, complètement, et encore une fois, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de fierté et beaucoup de confiance. Et moi, j'ai grandi dans des lycées français à l'étranger, j'ai été entouré de Français qui parfois n'avaient presque pas connu la France et qui pourtant parlaient français parfaitement, et je me suis rendu compte qu'on parlait même plus français en dehors de la France qu'en France. Aujourd'hui, je suis en train de vivre en France, mais l'année dernière, je vivais en Italie. L'année prochaine, je serai sans doute à l'étranger. Et donc, encore une fois, de faire quelques passages en France, mais de sentir aussi que la France vit bien au-delà de la France. Et c'est une des grandes choses qu'est parvenue à faire la France, de pouvoir créer ce système, tantôt des alliances françaises, tantôt des instituts français, tantôt des ambassades, tantôt des lycées, et d'avoir l'intelligence de dire non, il faut ouvrir les frontières, il faut aller vers l'ailleurs. Et si aujourd'hui, moi, je suis en train de vous parler français, c'est parce qu'il y a 40 ans, la France a ouvert ses frontières pour qu'il y ait un réfugié politique sortant des geôles chiliennes qui viennent s'installer en France, et qu'il y ait ici un fils qui aujourd'hui raconte cette histoire. Donc, quelque part, en fait, ceux qui lisent le livre et qui prennent peut-être plaisir à lire, à voyager et à rêver, ils sont tout simplement en train de se rendre une monnaie qu'ils ont déjà donnée il y a 40 ans.
Interrogatif. Vous aimez bien Michel Petrucciani?
Oui, énormément.
D'où Petrucciani pour un sol majeur?
Pourquoi Petrucciani?
Non, pas forcément pourquoi. D'ailleurs, oui, pourquoi? Allons-y.
Oui,
vous aimez bien les pourquoi, vous?
Oui, non. Mais je m'interroge en effet, et en même temps que vous, et c'est ça qui est beau dans la conversation. Eh bien, j'ai toujours eu une fascination en effet pour Michel Petrucciani, mais sans doute aussi comme tout le monde, parce que physiquement, enfin, l'homme le plus étrange de la Terre, et qui finalement arrivait avec ses doigts à donner quelque chose d'angélique. Donc il y avait à la fois du démon et de l'ange comme ça dans cet homme, dans le même corps. Enfin, toujours fasciné par Petrucciani.
Sol majeur avec Michel Petrucciani, en sol majeur avec Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, à consommer en podcast, j'espère que vous êtes podcast, sur notre application Pure Radio. On vous retrouve demain avec une certaine Ella Fekir. Je vais vous garder encore un petit peu avec moi, Miguel.
Merci.